Radio Stabile.
Morning Edition from NPR.
France Inter, le 18-20.
Cette semaine, 18h-20h, édition spéciale Europe pour que vous connaissiez mieux les enjeux de l'élection européenne du 26 mai. Un thème que nous vous exposons avec des reportages et les explications de nos spécialistes. Puis, dès 18h40, le téléphone sonne, c'est plutôt que d'habitude. C'est vous qui faites l'émission. On attend vos questions 01 45 24 7000. Pour vous répondre, deux personnalités qui n'ont pas le même point de vue sur le sujet que nous traitons. Ce soir, avec nous, Coralie Delhomme, qui est essayiste, et Sylvain Kahn, professeur à Sciences Po Paris. Premier dossier en ce lundi, à quoi sert l'Union européenne? Demain, on parlera de l'agriculture. Est-ce qu'elle est soutenue ou étouffée par l'Europe? Mercredi, l'immigration sur le vieux continent. Vendredi, avec Claire Servageant, l'Europe est-elle une chance pour l'environnement?
Pierre Veil, un jour dans le monde.
Donc premier thème, à quoi sert l'Europe? Isabelle Dabéry nous a rejoint. Isabelle Dabéry de la rédaction internationale de Radio France, bonsoir.
Bonsoir.
Isabelle, cette Union européenne, qu'est-ce qu'elle nous apporte de positif au quotidien et qu'on ne voit pas toujours ou alors qu'on a oublié?
Alors il y a une chose à laquelle on ne prête plus du tout attention et pourtant qui est très importante, c'est que nous sommes complètement libres de nos mouvements en principe de libre circulation qui étaient déjà inscrits dans le traité de Rome en 57. Aujourd'hui, il nous semble absolument normal de pouvoir étudier en Irlande avec Erasmus, de travailler en Allemagne, de partir en vacances en Croatie ou d'habiter en Espagne, le tout sans avoir jamais à montrer notre passeport. Car oui, Pierre, vous êtes, nous sommes citoyennes et citoyens européens. Et pour l'anecdote, si ici ou là, vous allez surfer sur Internet avec votre smartphone, eh bien vous n'avez plus de frais supplémentaires. Merci l'Europe. Les exemples sont nombreux dans notre vie quotidienne. Vous en voulez d'autres? Les 2 ans de garantie automatique quand vous achetez un appareil électroménager, c'est l'Europe. L'affichage de la composition des aliments, vous savez, les lipides, les glucides, tout ce qui vous permet de mieux vous informer et donc de mieux manger, c'est l'Europe. L'alimentation et la sécurité alimentaire sont des secteurs dans lesquels les eurodéputés sont particulièrement imaginatifs et pugnaces, même si c'est vrai, parfois ils en font un peu trop. Tout le monde connaît cette directive qui nous impose des bananes, je cite, sans malformation ni courbure anormale.
Alors, faire partie de l'Europe, Isabelle Labéry, ça signifie aussi des contraintes.
Bien sûr, en tant qu'entité supranationale, l'Europe peut imposer ses règles, même quand les États membres s'y opposent. Atteinte à la souveraineté nationale, disent les eurosceptiques. C'est le cas dans les domaines pour lesquels elle possède des compétences exclusives. Union douanière, politique commerciale, règles de concurrence et politique monétaire. Regardez la crise avec l'Italie qui n'a pas réussi à faire passer le budget de relance qu'elle souhaitait. Trop vorace, il a fallu un bras de fer de plusieurs mois pour qu'elle revoie sa copie, en tout cas momentanément. Mais plus que la contrainte, finalement, j'ai l'impression que l'Europe est surtout une machine à produire de l'immobilisme. Parce que quand il n'y a pas unanimité, et c'est très fréquent, tout se paralyse. Exemple, accueil des migrants perdus en Méditerranée, taxation des GAFA. En matière d'environnement, autre exemple, quand l'Europe a enfin interdit les sacs plastiques en 2015, la Belgique, elle, l'avait déjà fait 8 ans plus tôt. Dans ces cas-là, l'Europe ne sert peut-être pas à rien, mais en tout cas pas à grand-chose.
Isabelle Labéry, vous restez avec nous, on vous retrouvera dans quelques minutes. La présence de l'Europe au quotidien, illustration maintenant en Hongrie. Vous le savez, là-bas, le Premier ministre Viktor Orban ne cesse de critiquer Bruxelles et la Commission européenne. Il refuse les migrants, mais tous les sondages le montrent. Les Hongrois veulent rester dans l'Europe, mais ils souhaiteraient une Europe plus efficace pour les protéger. Reportage à Budapest, Florence Labruyère.
Sur le marché ensoleillé de la place Bosniak à Budapest, l'ambiance est animée. Mais derrière son stand où il vend du miel de tilleul et d'acacia, Peter attend vainement le chaland. Cet apiculteur vend de moins en moins de miel. D'après lui, c'est à cause de l'Union européenne qui laisse le faux miel asiatique envahir le marché communautaire.
Le bon miel est invendable, alors que le faux miel se vend comme des petits pains. Le problème est qu'avec les frontières ouvertes, on est inondé de produits frauduleux. Résultat, je n'ai presque plus de clients. Les consommateurs achètent du bas de gamme dans les grandes surfaces. Cette Union européenne, elle ne sert à rien.
L'Europe est incapable de protéger l'environnement, déplore cet apiculteur. Les néonicotinoïdes, ces pesticides qui tuent les abeilles, sont interdits en France alors que le gouvernement hongrois les autorise.
J'ai perdu beaucoup d'abeilles. Elles ne sont pas revenues à la ruche à cause des pesticides qu'ils répandent maintenant sur les cultures. Ils ne nous disent pas quand ils aspergent ces produits. C'est très grave ce qui se passe.
Ce qui désole les Hongrois, c'est l'incapacité de l'Union européenne à arrêter le pillage des fonds européens. Un simple plombier chauffagiste, ami d'enfance de Viktor Orban, est devenu l'homme le plus riche du pays. Il rafle presque tous les contrats financés par l'argent européen. Et ça, ça énerve beaucoup Irène.
Il faudrait tout de même que l'Europe contrôle comment l'argent est dépensé. Comment se fait-il qu'un simple plombier soit devenu milliardaire en un rien de temps ? Ce n'est sûrement pas par des moyens honnêtes. Ça fait mal à beaucoup de gens, vous savez, de voir que les copains du gouvernement sont milliardaires alors que dans les villages, les pauvres sont encore plus pauvres.
Adam, un informaticien de 32 ans, regrette que les institutions communautaires n'aient pas plus de pouvoir pour sanctionner les abus. Du coup, la corruption reste impunie, car la justice hongroise ne fonctionne pas.
Quand un entrepreneur proche du gouvernement trempe dans une affaire louche, il n'est jamais poursuivi. Parce qu'une grande partie de la justice est sous le contrôle total du parti au pouvoir.
À quoi sert l'Europe si elle n'a pas réussi à stopper la dérive autoritaire du gouvernement Orban ? C'est le constat amer de Daniel Berg, 31 ans, membre du petit parti pro-européen Momentum.
On est très déçus par tout ça. Mais le grand responsable, c'est le Parti populaire européen. C'est un échec de l'élite européenne. Tant que les chrétiens démocrates allemands continueront à protéger Orban, rien ne changera.
Désabusés, les Hongrois ? Peut-être, mais ils restent très attachés aux valeurs communautaires. Ils veulent en fait plus d'Europe, une Europe qui les protège de leur propre gouvernement.
Laurence Labruyère, reportage à Budapest. Et tout de suite, réaction de nos invités qu'on retrouvera dans quelques instants dans le téléphone sonne. Coralie Delhomme, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes essayiste et vous venez de publier avec David Kaila 10 questions plus une sur l'Union européenne chez Michalon. Et Sylvain Kahn, bonsoir Sylvain Kahn.
Bonsoir.
Historien, géographe, professeur à Sciences Po, publié chez Ide Odile Jacob avec Jacques Lévy, Le pays des Européens. Coralie Delhomme, que pensez-vous de ces commentaires des Hongrois face à certaines insuffisances de l'Union européenne ?
Oui, la Hongrie est un pays qui a des problèmes internes, mais quel pays n'en a pas ? Enfin, c'est un peu le reportage qu'on a entendu, c'est un petit peu décorrélé de l'Union européenne. N'importe quel autre pays pourrait avoir le même type de problème. Les Hongrois ont la particularité d'être plutôt des bons élèves du marché unique, c'est-à-dire que économiquement, ils ont pas le gouvernement Orban n'a pas un programme révolutionnaire. Les pays de l'Est ont plutôt profité de leur intégration au marché unique parce qu'ils ont été, ils se sont imbriqués dans le hub industriel allemand. Donc ils ont profité de la puissance de l'industrie allemande et ils servent aujourd'hui de base arrière à cette industrie allemande. Et ça, l'Europe de l'Est, ça lui profite beaucoup parce que ça lui permet de s'industrialiser à la différence d'un certain nombre d'autres pays qui, du fait du fonctionnement du marché unique, se désindustrialisent au contraire.
Sylvain Kahn, l'attitude des habitants de Budapest qu'on a entendu, qui sont un peu choqués que l'Union européenne n'ait pas plus d'influence sur Orban, qui quelquefois prend ses distances avec les valeurs fondamentales de l'Union européenne.
Il y a deux choses. Comme vous le dites fort justement, c'est effectivement un reportage qui a été fait à Budapest. Et quand on regarde les cartes électorales, on voit bien que Viktor Orban, qui a été réélu en 2018 pour une troisième fois d'affilée, avec 48% des voix, est très populaire, plutôt en dehors des très grandes métropoles et singulièrement plutôt en dehors de Budapest. Donc effectivement, il y a une contestation, mais finalement cette contestation à la politique de Viktor Orban est relativement faible. Et là où en réalité elle commence à prendre un peu plus sur l'ensemble du territoire, c'est depuis que Viktor Orban a pris avec son parti le Fidesz, fin 2018, des véritables lois antisociales. C'est-à-dire que Viktor Orban, sous couvert, on va dire, d'être très agressif vis-à-vis de la Commission et très souverainiste, est sans doute un des gouvernements européens qui est le plus antisocial, puisqu'il y a des syndicalistes en particulier qui sont descendus dans la rue pour demander la fin et le non-vote de ce qu'ils ont appelé les lois esclavagistes, puisque en Hongrie, maintenant, il est possible aux entreprises d'obliger les ouvriers, les salariés à faire des heures supplémentaires qui font trois fois plus que le plafond précédent jusqu'en décembre 2018, en les payant jusque trois ans plus tard. Voilà. Et ça, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fui la Hongrie, des gens qualifiés, des jeunes diplômés, et il y a un véritable problème de main-d'œuvre, en fait, parce que les gens votent avec leurs pieds en quittant le pays.
Et face à ces mesures décidées par Orban, l'Union européenne ne peut rien faire.
Non, elle peut faire des choses, puisqu'il y a... Alors, c'est toujours compliqué avec l'Union européenne, parce que à la fois, quand elle en fait, disons... Globalement, c'est un espèce de pays fédéral, d'accord? Alors, oui. Comme dans tout pays fédéral, même si c'est très schématique, dans tout pays fédéral, on peut soit retrouver que le gouvernement fédéral, appelons-le central de Bruxelles, en fait trop, ou au contraire qu'il en fait pas assez. Et les Hongrois, là-dessus, sont très très divisés, comme tous les Européens. Il y a beaucoup d'Européens qui aimeraient que Bruxelles en fasse plus, et beaucoup d'Européens qui aimeraient que Bruxelles en fasse moins.
On en parlera au cours du Téléphone Zone. Je rappelle, l'émission Téléphone Zone commence plus tôt que d'habitude, dès 18h40. Appelez-nous, hein, le standard est à votre disposition, 01 45 24 7000. Et bien sûr, le site de l'émission, franceinter.fr. Et pour vous répondre ce soir, Coralie Delhomme et Sylvain Kahn. On vient d'entendre ces Hongrois qui se plaignent d'une Europe qui n'a pas su les protéger parfois suffisamment, de leur propre gouvernement. Isabelle Labéry, on vous retrouve. Ça nous amène à l'un des grands échecs de l'Union. Le modèle social.
Oui, c'est l'un des domaines, on en parlait, dans lesquels l'Europe n'en fait sans doute pas assez, parce que le projet européen, il est d'abord et surtout un projet économique, et ce n'est pas parce qu'on est devenu la première ou la deuxième puissance économique du monde, avec un marché de 500 millions de consommateurs, que l'Europe sociale suit de manière mécanique. Évidemment, la construction européenne, elle a participé à l'élévation du niveau de vie, mais les contrastes, on le disait, sont très marqués, notamment entre Europe de l'Ouest et de l'Est. Un exemple, le SMIC. En France, 1520 euros par mois brut. En Bulgarie, moins de 300 euros. Et si vous prenez l'Italie, l'Autriche ou la Finlande, c'est encore plus simple, il n'y a pas de salaire minimum. Alors, on entend souvent dire que ce sont les traités qui interdisent toute harmonisation sociale et fiscale. C'est vrai, mais dans les faits, Bruxelles s'est parfaitement contourné cette contrainte, pour être un peu technique, en usant de sa compétence en termes de marché intérieur. Uniquement, là encore, sur des sujets consensuels, puisque là, toujours, c'est l'unanimité des voix qui compte.
Finalement, Isabelle, est-ce que ce Parlement européen, pour lequel nous allons voter le 26 mai, ce Parlement a-t-il de véritables pouvoirs? A-t-il un pouvoir d'initiative?
Alors, les députés ne proposent pas directement de loi, ça c'est le rôle de la Commission, mais leur aval, il est nécessaire pour adopter la majorité des lois. Leur pouvoir, d'ailleurs, a été renforcé depuis le traité de Lisbonne. Il y a, par exemple, un vote décisif des eurodéputés sur les traités internationaux qui sont signés au nom des États membres, comme le CETA, l'accord de libre-échange avec le Canada. Alors, sur le plan législatif, c'est vrai, on dit parfois que l'Europe nous impose ses directives, ses réglementations, que 80% des lois françaises viennent de Bruxelles. Alors ça, c'est un mythe. Attention, en réalité, le chiffre est plus proche des 20% en moyenne. Donc, les eurodéputés ne sont pas responsables de tous nos maux. Mais c'est vrai, la relative technicité de leurs dossiers, leur manque de présence aussi dans les médias ne contribue pas vraiment à en faire des hommes et des femmes populaires. Et l'Europe suscite toujours beaucoup de méfiance, voire de la défiance. Un chiffre pour terminer, Pierre. En France, 52% d'abstention lors du dernier scrutin en 2014.
Isabelle Labéry, merci Isabelle. Et à demain soir dans le 18-20 spécial Europe. L'utilité de l'Union européenne en France, avec un aspect un peu plus léger, l'Europe peut faciliter l'amour. Et oui, chez nous, 23% des couples sont binationaux et en grande majorité intra-européens. Un effet Erasmus, sans doute, dont vous avez parlé, Isabelle Labéry, cet échange d'étudiants à travers l'Europe. Mais pas seulement. Delphine Evenou a rencontré un couple franco-allemand. Le coup de foudre, c'était il y a 40 ans.
Hans-Peter et Martin se sont rencontrés au Mans, où ils habitent toujours, sur la piste de danse du Saumon, une boîte de nuit.
On se connaît avec Peter depuis, tu dis combien toi ?
Plus de 40 ans.
40 ans, voilà, c'est ça, donc ça se passe pas trop mal. Ça se passe bien.
En 75, Hans est en France depuis 2 ans, travaille dans le commerce international du tabac. Elle a grandi dans le coin et loin de l'Europe.
Nous, dans la famille, moi je me souviens, on ne parlait jamais de politique, de rien du tout. Nos parents ont eu la télé très tardivement, etc. Et puis, ils n'avaient pas le temps. Ils avaient une ferme, ils avaient 5 gamins. Donc voilà, on n'était pas bercés là-dedans, quoi.
C'est Hans-Peter qui va l'intéresser à l'Europe, à la politique. Il est né à Berlin sous les bombes en 1945 et a nourri son sentiment européen dès sa naissance.
Dans la boucherie de mon père travaillaient 2 étrangers en STO, service travail obligatoire. Un Français qui s'appelait Jean et un Belge qui s'appelait Pierre. Mes parents, avant ma naissance, n'avaient pas d'enfants, donc ils avaient plus ou moins adopté les deux STO comme leur fils. Et mes parents m'ont baptisé Hans-Peter. Hans, ça veut dire Jean, et Peter, ça veut dire Pierre. Donc l'Europe était présente quasiment dès ma naissance.
Et c'est en quelque sorte la construction européenne qui a permis à Hans-Peter et Martine de pouvoir tomber amoureux.
Vous vous rappelez peut-être qu'en 63, Adenauer et De Gaulle, ils ont signé un traité de l'amitié. Alors ça a eu comme conséquence immédiate un échange d'étudiants et d'élèves. J'étais sélectionné pour cet échange à Cannes, dans une ambiance internationale complètement vibrante. Ça m'a rendu complètement francophile.
Hans-Peter décide ainsi de construire sa carrière en France et rencontrera donc Martine. Ils s'installent ensemble, bâtissent leur vie. Sans enfants, ils n'éprouvent pas le besoin de se marier. Hans-Peter n'a jamais pris non plus la nationalité française, pas trop tracassé par l'administration. Une carte de séjour à renouveler, puis devenue définitive en 2008. Pour eux, c'est surtout la fin de la guerre froide qui a simplifié les choses.
De retourner en Allemagne, bien sûr, pour mon mari. Pour lui, c'était beaucoup plus simple. Même pour nous, d'ailleurs, en voiture, on n'avait plus ces espèces de barrages à traverser. Que ça
oui, depuis 89.
Passer, ouais. Depuis 89, oui. Pour passer en voiture, la frontière ouest-est, c'était une grande galère. Moi, je me souviens, j'étais partie avec une copine en voiture, parce que mon mari, à l'époque, ne pouvait pas passer la frontière, il prenait l'avion. Alors, purée, on a été contrôlés, mais mitraillette, machin, le coffre ouvert, on était dévisagés.
Bah, 89, les frontières sont tombées.
Pour Martine et Hans-Peter, la construction européenne sera ensuite un bonus.
Moi, je suis complètement fan des accords de Schengen, de la monnaie unique. Tout ça, ça rend la vie plus facile et ça facilite la rencontre des cultures.
Alors après 45 ans passés aux côtés de Hans-Peter, Martine a-t-elle fini par développer un sentiment européen ?
Oui, quand même, mais comment l'expliquer ? Pour moi, c'est pas flagrant, ouais, quoi.
Mais quoi ? Quand même, parce que tu as connu, par mon environnement professionnel, énormément d'étrangers européens. Tu as fréquenté des Grecs avec la famille Xoudis. Ça t'a quand même projeté un peu dans un environnement européen aussi.
La campagne pour les élections du 26 mai, le couple la suit plus ou moins attentivement, avec un certain scepticisme aussi sur l'action de l'Union européenne. Pour eux, l'Europe, c'est au quotidien et ils n'y prêtent plus vraiment attention.
Voilà un reportage Delphine Evenou, Coralie Delhomme. Avant de vous retrouver au téléphone, sonne un commentaire sur cette rencontre il y a 40 ans, cette image de l'Europe.
Ouais, c'est très mignon, mais je crois qu'il n'est pas rare que deux personnes originaires de pays voisins, même hors Union européenne, se marient entre elles. Donc encore une fois, je ne vois pas trop le rapport entre cet ensemble institutionnel, supranational et ce grand marché qu'est l'Union européenne et la rencontre de ces deux personnes. Lorsqu'en France, un Tunisien et une Française se marient par exemple, c'est assez fréquent. La Tunisie n'est pas un pays membre de l'Union européenne.
Sylvain Kahn, vous aussi, vous serez avec nous au téléphone sonne dans 5 minutes. Un commentaire ?
Déjà, ce qui me paraît, ça me paraît illustrer le fait que 17 millions d'Européens, de citoyens européens, vivent, habitent ou travaillent dans un autre pays que le leur. Alors, on peut trouver ça beaucoup ou trouver ça très peu, mais en tous les cas, les couples binationaux, il y en a forcément un des deux, peut-être même parfois les deux, qui vit dans un autre pays que le sien. S'agissant des Français, ça fait 660 000 personnes qui sont dans ce cas. Donc moi, disons, ce à quoi ça me fait penser, c'est au fait, effectivement, comme ça vient d'être dit, c'est pas lié aux institutions européennes. Mais ce que ça dit, c'est qu'il y a une espèce de société européenne qui existe déjà. Et finalement, à un moment donné, les institutions viennent un peu précisément, c'est comme le mariage d'une certaine façon, ou comme le Pax, ça vient instituer des mouvements sociaux spontanés, et donc d'une certaine façon, ça accrédite effectivement le fait qu'il y a beaucoup de gens qui, tout en se sentant de leur pays, ou ouais, de leur ville, ou de leur région, se sentent aussi européens, ça veut dire ça.
Le 18-20, Pierre Veille, sur France Inter.
Et Jean-Marc Four est avec nous. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Pas de monde à l'envers pendant cette semaine spéciale élection européenne, mais vous serez quand même avec nous tous les soirs pour nous raconter comment l'Europe est vue de l'extérieur, ailleurs dans le monde. Alors ce soir, notre premier thème, à quoi sert l'Union européenne ? Vous examinez le regard des États-Unis et pour Washington, Jean-Marc, l'Europe, C'est un nain politique.
Eh oui, une anecdote pour commencer, elle en dit long. C'est en décembre dernier, l'ambassadeur de l'Union européenne à Washington, David O'Sullivan, est estomaqué lors d'une cérémonie plutôt banale à la mémoire de l'ancien président Bush. Il découvre fortuitement que dans l'ordre protocolaire, il a été rétrogradé au rang de chef de délégation, c'est-à-dire 173e position dans le classement. Il a finalement été rétabli dans ses prérogatives le mois dernier, mais l'épisode est révélateur. Pour les États-Unis, l'Union européenne n'a pas de poids politique. Ça rappelle une autre anecdote célèbre, on la connaît bien, on prête à Henry Kissinger, hein, l'ancien patron de la diplomatie américaine, cette formule en 1973. « Who do I call if I want to call Europe ?» Autrement dit, « Je ne connais pas le numéro de téléphone de l'Union européenne. » Bon, Kissinger conteste avoir prononcé cette phrase, mais il affirme quand même n'avoir jamais compris qui est habilité à parler au nom de l'Europe. Depuis, ça s'est un peu arrangé, puisque on le sait, l'Union s'est dotée d'un haut représentant pour les affaires étrangères, actuellement Federica Mogherini. Mais dans l'esprit des États-Unis, l'Europe reste en effet rikiki, un nain politique incapable de parler d'une seule voix sur les grands sujets de politique étrangère. On se souvient de la guerre en Irak il y a une quinzaine d'années, la Chine ou le Venezuela aujourd'hui. Le think tank conservateur américain Hudson Institute va même plus loin et parle aujourd'hui d'une Europe totalement divisée entre le Brexit, les poussées populistes, etc. Et par-dessus le marché, la priorité géopolitique des États-Unis aujourd'hui, c'est désormais de l'autre côté de la planète, on le sait, en Asie, le partenariat transpacifique face à la rivalité de la Chine.
Mais Jean-Marc, il y a quand même le poids économique de l'Union européenne. Les États-Unis ne peuvent pas le contester, ce poids.
Oui, alors l'Europe, c'est la première puissance commerciale mondiale, c'est la deuxième économie au monde. Isabelle Labéry le rappelait tout à l'heure, et les États-Unis le reconnaissent. Ça, c'est vrai depuis 70 ans. D'ailleurs, Washington a toujours fondé sa relation avec le vieux continent sur le commerce. Mais là, l'écueil est aujourd'hui d'une autre nature. Sur le plan commercial, l'Europe, c'est l'ennemi. C'est la formule de Donald Trump. Le président américain est obsédé par une chose, c'est l'automobile. Il se plaint régulièrement de voir trop de Mercedes dans les rues de New York et pas assez de Chevrolet en Allemagne. Et le fait est que la balance commerciale entre l'Europe et les États-Unis est déséquilibrée au profit de l'Union européenne. Plus de 400 milliards dans un sens, moins de 300 milliards dans l'autre sens. Comme l'Europe est trop puissante commercialement, si on peut dire ça comme ça, il faut donc la diviser. C'est ce que cherche Trump. Il y a un an, il aurait même suggéré à Emmanuel Macron de faire sortir la France de l'Union européenne en lui faisant miroiter quoi, un accord bilatéral avec les États-Unis. Parce que Trump, on le sait, ne jure que par le bilatéral. Il ne supporte pas le multilatéralisme. Et pour lui, l'Europe, c'est forcément du multilatéral puisqu'il n'y a pas de numéro de téléphone. Hein, c'est QFD. Donc, le bilatéral. Et la Chine ne fait pas vraiment autre chose en faisant les yeux doux aux pays de l'Europe du Sud ou de l'Europe de l'Est.
Et donc, la vision des États-Unis, Jean-Marc, elle est justifiée ?
Elle n'est pas fausse. C'est d'ailleurs l'un des enjeux clés pour l'Europe aujourd'hui. Face à la Chine et aux États-Unis, l'Union européenne va-t-elle se décider à se penser comme une puissance politique, pas seulement une puissance commerciale et une éventuelle unité culturelle ? Pour l'instant, ça n'en a pas pris le chemin.
Jean-Marc Four, chaque soir, l'Europe vue de l'extérieur. À demain soir, Jean-Marc. Dans quelques minutes, le téléphone sonne, 01 45 24 7000. Vos questions, à quoi sert l'Europe? Mais avant cela, on va écouter Fox Warren et son chanteur canadien Andy Schauf. Des mélodies limpides pour dire une forme de tristesse amoureuse avec un superbe solo de guitare. Écoutez, To Be.
Talk with seals and all the cool lines.
Toby Fox Warren sur France Inter, il est 18h42.
France Inter, le 18-20.
Ça fait un peu bizarre, hein, le téléphone sonne, commence plutôt que d'habitude, ce sera comme ça cette semaine, avant cette élection européenne le 26 mai. On veut prendre le temps de vous répondre, de vous informer sur les enjeux de ce scrutin. Et notre thème ce soir, c'est « À quoi sert l'Union européenne ?» Pour vous répondre, Coralie Delhomme, qui est, je le rappelle, essayiste, auteur de plusieurs livres sur l'Europe. Par exemple, « Le couple franco-allemand n'existe pas », c'était chez Michalon l'année dernière. Et là, Coralie Delhomme vient de publier avec David Kaila « 10 questions plus une sur l'Union européenne » chez Michalon. Sylvain Kahn, il est historien, géographe, professeur à Sciences Po Paris. Et il publie chez Odile Jacob avec Jacques Lévy « Le pays des Européens ».
Le 18-20. Pierre Veil, le téléphone sonne.
Alors, il y a des courriels déjà assez nombreux sur le site de l'émission. Je les résume. Par exemple, Christian, il nous a écrit « L'Europe nous permet de nous protéger, de lutter contre les géants économiques actuels, les États-Unis, la Chine. Qu'est-ce qui est plus fort face à Trump ou Xi Jinping, Emmanuel Macron tout seul ou Emmanuel Macron et ses 27 homologues européens ?» Sur ce constat sur l'utilité de l'Europe, un premier commentaire, Coralie Delhomme.
Le problème, c'est la manière dont fonctionne le marché unique, qui est un grand marché complètement dérégulé et qui génère de la divergence économique entre les différents pays. Il faut toujours bien distinguer l'Europe, qui est un ensemble de pays, évidemment, et l'Union européenne, qui est un ensemble institutionnel et un grand marché. Ce sont deux manières contingentes d'organiser le continent. L'Union européenne et l'Europe ne se superposent pas. Et la manière dont fonctionne le marché unique, avec la libre circulation des capitaux, la libre circulation des travailleurs, génère des phénomènes de divergence économique très profonds qui bénéficient à un certain nombre de pays, qui sont les pays du cœur de l'Europe, et notamment l'Allemagne, et qui affaiblit considérablement les pays de la périphérie. Au-dessus de ça, s'ajoute l'existence de l'euro, qui est une monnaie qui est surévaluée pour certains, sous-évaluée pour d'autres, ce qui fait que certains pays sont artificiellement compétitifs dans le cadre de l'existence de l'euro et que d'autres ont perdu en compétitivité. Ces trajectoires divergentes qui sont générées par les structures elles-mêmes tendent à éloigner les différents pays au lieu de les rapprocher et cela défavorise la coopération entre les différents pays. Ça fait des différents pays européens des pays rivaux et des pays qui ont de plus en plus du mal à coopérer. Donc pour parler d'une seule voix face à Trump, évidemment c'est plus difficile quand on a des intérêts de plus en plus divergents que lorsqu'on coopère hors de ces structures.
Sylvain Kahn, Emmanuel Macron est plus fort avec ses homologues européens plutôt que d'être seul face à Xi Jinping ou Donald Trump.
Déjà, la question qui est posée par votre auditeur, finalement, dans une certaine mesure, Emmanuel Macron n'est pas très important parce que la question, si j'ai bien entendu, qui a été posée, c'est est-ce que l'Europe, c'est-à-dire est-ce que les sociétés et les économies de chacun des pays membres de l'Union arrivent à mieux résister ou moins mal résister dans un monde de géants économiques en étant tous ensemble ou en étant isolés. Et à la limite, quel que soit le président de la République en France, quel que soit le chancelier en Allemagne ou le président en Estonie, peu importe, voilà.
Est-ce que l'Europe est indispensable aujourd'hui face aux géants indispensable. Américains alors, ou chinois?
Attention, indispensable, effectivement, comme ça vient d'être dit, il y a c'est jamais blanc ou noir. Ça peut jamais être 100% réussi ou 100% raté. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que si on regarde certaines choses, ça vient d'être rappelé par Jean-Marc Four, l'Union européenne a un excédent commercial avec les États-Unis d'Amérique. Ce que n'a pas, par exemple, la France seule. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'Union européenne en tant que telle est demeurée une puissance commerciale mondiale, puisque les États-Unis, en l'an 2000, représentaient 16% des exportations mondiales. Mmh. En 2015, ils ne représentaient plus que 10%. Quant à l'Europe, en l'an 2000, elle représentait 16% des exportations mondiales, et en 2015, 15%. C'est-à-dire qu'elle a, en s'élargissant, elle est parvenue à résister. Là où la Chine passait de 5% des exportations mondiales à 15% des exportations mondiales. Donc rien que ce chiffre, et encore une fois, ça ne préjuge pas de la manière dont on y arrive et des éventuels déséquilibres, rien que ce chiffre donne raison à votre auditeur. C'est-à-dire que l'Union européenne permet à chacun des États membres de mieux résister à l'émergence d'un nouveau géant économique comme la Chine, c'est clair.
On va au standard. Serge dans les Cévennes. Bonsoir Serge, merci d'écouter l'émission et d'y participer.
Alors si c'est à moi que vous vous adressez, je m'appelle bien Serge, mais je suis pas dans les Cévennes, je suis à Paris, à Gare du Nord.
Ah pardon, ah bah écoutez, alors non, parce qu'il y a marqué Cévennes sur mon ordinateur, Serge Cévennes, alors je pensais que c'était non. Dans les Cévennes, pas du tout.
Non, bon. Ne vous excusez pas, j'aimerais mieux être d'ailleurs dans les Cévennes,
Allez-y.
Alors juste, quand même, la dame qui vient de s'exprimer, je vous prie de m'excuser de ne pas retenir les noms.
Coralie Delhomme.
Coralie Delhomme vient de me convaincre, enfin, non pas de me convaincre, mais de me dire que l'Europe, en fait, n'existe pas. Pourquoi ? Parce que l'Europe, c'est un assemblage de pays concurrents. Ils sont concurrents entre eux, d'où les énormes problèmes qu'on rencontre. Moi, j'aimerais poser une question un peu technique et peut-être un peu tricky, comme on dit en anglais, à savoir comment est venue l'idée de l'unanimité, qui est pour moi une contrainte absolument aberrante, qui me fait penser à, je ne sais plus si c'était à la diète de Pologne où une seule voix suffisait à rejeter une loi. Comment cette idée est-elle venue? Comment est-ce que vos interlocuteurs peuvent nous convaincre qu'il va être possible de renverser la vapeur et de changer cette donne? Parce que je pense que si c'est pas possible de faire ça, de changer cette donne-là, on aura en mai, à mon avis, 70% d'abstention aux élections.
Cette règle de l'unanimité qui est nécessaire dans certains domaines, Sylvain Kahn, lesquels, peut-être il faut le rappeler.
En tout cas, venant d'un auditeur qui habite Gare du Nord, qui est le terminal, je le rappelle, de l'Eurostar, on ne pouvait avoir qu'une question tricky, effectivement. La question de l'unanimité, c'est une vraie question. Ce qu'il faut voir en tendance, c'est que les secteurs où les décisions se prennent à l'unanimité ne cessent de diminuer depuis les débuts de la construction européenne, c'est-à-dire depuis le traité de Rome en 1957. Pour dire les choses de manière un peu rapide, l'unanimité reste vraiment indispensable. L'unanimité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un pays peut avoir un droit de veto. C'est-à-dire il faut dire ce que c'est que l'unanimité à l'endroit. Ça veut dire qu'un pays peut s'opposer au fait que les 27 autres, par exemple, se seraient mis d'accord. Donc l'unanimité reste requise, en particulier dans la fiscalité, d'accord ? Et en ce qui concerne la signature de traités internationaux qui sont considérés comme, on va dire, complexes, c'est-à-dire multisecteurs. Bon, puis c'est aussi un peu le cas dans certaines politiques de la défense. Bon, alors, cependant, l'unanimité recule de plus en plus. Et le nombre de domaines à l'unanimité est de moins en moins important. Il y a une deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est que au début de la construction européenne, depuis 1957, le Parlement européen n'avait aucun pouvoir. Or, au fur et à mesure que les années passent, même si le Parlement européen n'a pas encore autant de pouvoir qu'un Parlement national dans un pays, il en a maintenant presque autant que la deuxième chambre, qui est la Chambre des États.
Alors, juste un point, comme ce soir, notre thème, c'est à quoi sert l'Europe ? Quels sont les domaines dans lesquels l'Europe peut prendre des décisions, avancer et donc être utile avec des décisions prises à la majorité qualifiée ?
Alors, l'agriculture, c'est très important. Ça a été rappelé tout à l'heure, ce qu'on appelle le marché intérieur. Alors, le marché intérieur, parce que c'est un mot un peu technique ou un peu barbare, ça veut dire les conditions de production par les acteurs économiques, les conditions de consommation par les consommateurs, y compris les règles sanitaires, y compris les règles environnementales, et s'agissant à la fois des biens manufacturés, les biens matériels, et des biens immatériels. Voilà, c'est ça le marché unique. Et donc, du coup, depuis 1957, l'Union européenne met en place ce qu'on appelle des règles de la concurrence, c'est-à-dire, avant, il n'y avait que des marchés nationaux. Ça, on s'en rappelle tous. Aujourd'hui, il y a un marché européen. Donc, qu'est-ce que font les Européens tous ensemble avec l'aide de la Commission ? C'est qu'ils régulent un marché qui n'existe pas. On crée un marché à l'échelle européenne. Au lieu qu'il y ait 60 millions de consommateurs pour les producteurs de voitures françaises, il y en a maintenant 500 millions. Et les règles ne sont plus uniquement les règles qui sont édictées par le législateur français, mais des règles édictées à 28 par un législateur européen qui comprend tous les États membres. Et donc, le marché unique est un marché régulé. Il y a des règles, il y a une politique économique qui vise à faire en sorte que vous produisiez une Skoda en République tchèque ou une Renault en France, les règles de production qui encadrent la production et la consommation sont les mêmes sur l'ensemble du territoire européen. C'est ça le marché unique.
Coralie Delhomme, sur ce problème de certaines décisions prises à la majorité qualifiée ou qui doivent être prises à l'unanimité, et ça bloque très souvent, il suffit qu'une personne, qu'un pays dise non, c'est fini, on ne peut rien faire.
Oui, ça bloque parce qu'on a pris le parti de construire cette Union européenne en mode supranational, c'est-à-dire qu'on a créé quelque chose de partiellement fédéral, à partir de l'existence d'un certain nombre de pays souverains. À partir du moment où on essaye de faire ça, effectivement, à partir du moment où on essaye de se doter d'un fonctionnement quasi étatique, on en vient à imposer ces règles. Mais le problème, c'est que la fin de l'unanimité ou le recul de l'unanimité génère un problème démocratique majeur. Parce que si vous voulez, si on considère que chaque pays est souverain, à partir du moment où il y en a un qui se trouve en minorité, il se fait complètement écraser et imposer des vues qui sont contraires, par exemple, à celles du gouvernement qui a été démocratiquement élu dans ce pays. Donc le recul de l'unanimité pose un problème démocratique important. Mais ça tient au fait qu'on aurait pu organiser l'Europe de manière totalement différente, c'est-à-dire qu'on aurait pu privilégier des modalités très souples de coopération intergouvernementale qui soient de nature à préserver la souveraineté des différents pays et des choses beaucoup plus, des projets beaucoup plus circonscrits dans un cadre qui n'aurait rien à voir avec un cadre partiellement étatique. À ce moment-là, on aurait pu considérer qu'un certain nombre de pays peuvent participer à tel projet et pas à tel autre, etc. Ouais. etc. C'est ce fonctionnement quasi-étatique qui pose un problème démocratique en Europe.
Fabien est au standard. Alors, j'essaie de ne pas me tromper en lisant mon écran d'ordinateur. Fabien, bienvenue. Vous êtes à Saint-Marcellin ? Vous n'êtes pas à la gare du Nord ?
Non, c'est pas la gare du Nord du tout.
Saint-Marcellin, parfait. Allez-y, bonsoir, vous êtes sur l'antenne. Bienvenue.
Bonsoir aux intervenants et bonsoir aux auditeurs de France Inter. Oui, donc oui, c'est bien l'un des gros problèmes de l'Union européenne aujourd'hui, c'est que les citoyens européens ne connaissent pas les pouvoirs de la Commission européenne et du Parlement européen, donc ils ne savent pas vraiment pourquoi ils vont voter quand ils vont voter pour le Parlement européen, puisqu'on ne vote pas directement pour la Commission. Donc, c'est des choses, quand les actions sont faites, en France c'est par l'intermédiaire des régions, les Français ne sont pas forcément au courant que c'est l'Union européenne qui finance et les gens ont l'impression que ça n'a pas d'effet sur leur vie quotidienne. Et ça entraîne un grand déficit démocratique et surtout une grande abstention. Aux prochaines élections européennes, là en France, j'attends 75 et 85% d'abstention.
On verra, là, le chiffre est très élevé.
Écoutez, enfin, si j'ai raison, vous avez le droit de m'engager à la place de Maris.
Fabien, sur ce thème que vous évoquez, le fait que l'Union européenne semble très lointaine auprès des électeurs français qui connaissent mal son fonctionnement, ses règlements sur ce point, Sylvain Kahn.
Il me semble que pour aller dans une discussion avec Fabien sur ce point, c'est une vraie question au sens de comment ne pas ressentir un éloignement vis-à-vis des élus ou des gouvernants qui sont à Bruxelles dans un territoire de 500 millions d'habitants. Et en fait, c'est parce que il faut essayer de se représenter l'Union européenne en partant de ce qu'elle est et pas du fait qu'elle n'est pas un État-nation. Voilà. Alors, pour ça, par exemple, on peut, me semble-t-il, avoir une comparaison qui n'est pas raison, mais qui n'est pas inutile. On dit souvent, je pense que tous les auditeurs, et Fabien en particulier, comme les autres, s'en souviennent, on dit très souvent « Ah oui, regardez aux États-Unis, à chaque fois qu'il y a une élection présidentielle ou à chaque fois qu'on élit les parlementaires états-uniens, donc nationaux, il y a un taux de participation qui est faible. » D'accord ? On dit toujours « Tiens, comment ça se fait que l'homme le plus puissant du monde, en tout cas c'est comme ça qu'il est souvent présenté à France Inter par exemple, soit élu avec seulement 40% de votants ?» Eh ben, si on regarde les choses aux États-Unis, en fait, les électeurs américains, ils votent beaucoup plus aux, ce qu'on appellerait nous les régionales, c'est-à-dire pour les élections dans les États fédérés, je sais pas, moi, Texas, Delaware, Michigan. Ils votent encore plus aux municipales. Ils votent encore plus, pour, ce qui serait chez nous, les départementales. Ben, vous savez, finalement, en Europe, c'est un peu pareil, hein. C'est-à-dire que, d'abord, en fonction de ce qui a été dit tout à l'heure, on a bien conscience que l'Europe s'occupe d'un certain nombre de choses. Et elle ne s'occupe pas de tout. Je sais pas moi, la réforme du baccalauréat, par exemple, qui est en train de devenir une quasi-guerre de religion en France à table au moment du week-end pascal, eh bien, Bruxelles ne s'en occupe pas du tout. Ben, c'est sûr que ça peut mettre beaucoup plus de gens dans la rue en France, la réforme du bac ou la réforme de l'éducation nationale et la réforme Blanquer, que la réforme du marché unique. Bon, donc le fait que les gens se déplacent moins pour voter aux élections du Parlement européen que pour voter aux élections nationales, quel que soit le pays, c'est pas très surprenant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément le signe d'un désintérêt. Ça peut même être le signe que les gens ont plutôt pas mal compris comment ça marche.
Coralie Delhomme, sur le fait que beaucoup de Français ne connaissent pas les pouvoirs, les réalisations de l'Europe. Ça existe quand même. Je veux dire, la politique agricole commune, c'est une réalité. Erasmus, par exemple, qui a permis à 9 millions d'Européens de partir étudier quelques mois dans un pays membre de l'Union.
Juste une chose sur Erasmus pour donner une idée. L'existence d'Erasmus n'est pas conditionnée à l'existence de l'Union européenne. On pourrait tout à fait faire Erasmus d'une autre façon, en intergouvernemental. Et c'est si vrai que dans le programme Erasmus, il y a des pays qui sont pas dans l'Union européenne. Il y a la Turquie, par exemple. Donc on pourrait tout à fait faire ça sans être dans ce cadre supranational et sans être dans ce grand marché dérégulé. Après, la question de l'opacité, à mon avis, c'est lié au fait que justement, dans le cadre de ce grand marché, à l'intérieur duquel on a tout dérégulé, les mouvements de marchandises, les mouvements de capitaux, les mouvements de personnes, on a pour ainsi dire organisé, la prévalence de la souveraineté du marché sur la souveraineté populaire. Et c'est ça la réalité. L'autre chose, et à mon avis, c'est pour ça que les gens comprennent peut-être pas bien, c'est que ils n'ont pas forcément conscience que la question européenne est une question nationale. Beaucoup de gens pensent que c'est une question géopolitique, en fait, que c'est une question de relation avec des pays tiers. Mais ça a vraiment, la manière dont l'Union européenne est organisée, a vraiment des incidences immédiates dans la manière dont fonctionne l'économie au niveau national. Il faut savoir que les pays qui sont membres du marché unique et de la monnaie unique se sont complètement départis de tous leurs instruments de politique économique. Il y a plus, pour la France, il n'y a plus de politique monétaire, il n'y a plus de politique de change, il n'y a plus de politique commerciale, puisque c'est une compétence exclusive de l'Union européenne. Il n'y a plus de politique industrielle, puisque les États n'ont plus le droit d'intervenir dans l'économie. Donc ça génère des conséquences immédiates qui sont qu'en réalité, la seule politique qu'on mène, et qu'on soit de gauche ou de droite, c'est qu'on taille dans ce qu'on appelle le coût du travail. Autrement dit, la seule variable d'ajustement pour devenir plus compétitif que le voisin, c'est de diminuer la réglementation du travail et le coût du travail.
Sylvain Kahn, sur ce constat que fait Coralie Delhomme, d'accord, pas d'accord?
Non, je pense que c'est pas un constat, je pense que c'est une interprétation, et donc on peut bien entendu en débattre. C'est-à-dire que la question, enfin, j'entends tout à fait ce qui est dit, c'est-à-dire que effectivement la France n'a plus de politique monétaire, d'accord, mais elle a en fait une politique monétaire partagée, c'est-à-dire que il y a une banque centrale européenne avec des gouverneurs, un bureau des gouverneurs comme on dit. Dans ce bureau des gouverneurs, il y a le gouverneur de la banque centrale de chaque pays membre de la zone euro, et les décisions s'y prennent à la majorité. Donc ça oblige effectivement les Européens à se mettre d'accord avec les voisins pour être souverains.
Inter, le 18-20.
Et voici le téléphone sonne, deuxième partie. On a commencé vers 18h40 et ce sera le cas toute cette semaine consacrée à l'Europe, aux élections européennes le 26 mai. Pour mieux vous informer, chaque jour un thème, et ce soir une question à quoi sert l'Europe ? N'est-elle qu'une machine à émettre des directives, des normes, des règlements ? Est-ce qu'elle n'est là que pour contrôler les dettes, les déficits des États ? Qu'est-ce que l'Europe change dans notre quotidien ? Appelez-nous 01 45 24 7000, envoyez-nous des courriels franceinter.fr et pour vous répondre, Coralie Delhomme, qui est essayiste, auteure du blog La Reine Nue. Elle a publié de nombreux livres sur l'Europe. Le dernier, elle vient de le publier avec David Kaila, 10 questions plus une sur l'Union européenne. C'est paru chez Michalon. Et puis Sylvain Kahn, historien, géographe, professeur à Sciences Po Paris. Il publie chez Odile Jacob avec Jacques Lévy, Le pays des Européens.
Pierre Veil, le téléphone sonne.
À quoi sert l'Europe ? Denise est avec nous. Bonsoir, Denise.
Oui, bonsoir. Bonsoir.
On vous écoute.
Très bien. Bah, écoutez, moi, je vais pouvoir vous donner une information venant d'une personne qui a voté non à Maastricht et non aussi en 2005, simplement parce que l'Europe qui nous est imposée, c'est l'Europe du lourdo-libéralisme. Et depuis le grand virage libéral, there is no not alternative, à l'époque de la mère Thatcher, en fait, on n'a pas pu avoir une autre économie testé en Europe. Et donc, en fait, on est tous soumis à cet ultralibéralisme et on en crève. Alors moi, j'ai des chiffres qui me viennent des partis d'extrême-gauche. Donc, effectivement, il y a plus de pauvres depuis des décennies qu'il n'y avait avant. Et pour moi, l'Europe, c'est vraiment la grande victoire des théories libérales. Et donc, comme il n'y a pas d'alternative et qu'il n'y a pas d'enseignement correct d'une autre économie dans les facs et dans les grandes écoles, ben voilà, on est complètement pris par ça. Et la concurrence libre et non faussée, moi j'ai vu tout de suite que ça serait une catastrophe pour beaucoup de choses. Donc je comprends pas. Moi, l'Europe des gens, l'Europe des l'Europe de, je sais pas, de la culture, l'Europe du voyage, bon, ok, ça c'est bien de pas pouvoir changer de monnaie, de pas devoir changer de monnaie pour avoir l'euro partout, c'est super, mais j'ai pas digéré ce qu'on a fait à la Grèce. Et je sais qu'on est en train de nous faire la même chose en France. Ça me révolte.
Denise, merci d'avoir témoigné. On a beaucoup de courriels sur ce même thème. Je vous lis la Michel qui se trouve à Strasbourg. Il nous a écrit « Les contraintes européennes ne sont-elles pas responsables de la crise des gilets jaunes chez nous ?» Coralie Delhomme, ces témoignages sur l'ultralibéralisme qui serait imposé par l'Europe.
Oui, mais c'est complètement vrai. Je pense que la dame a à peu près bien résumé la situation. Oui, l'Union européenne, c'est avant tout un marché dérégulé, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire un marché où, à l'intérieur duquel le capital circule librement, à la fois entre les pays membres et vis-à-vis des pays tiers. C'est-à-dire que là-dedans, tout rentre comme un moulin. Hein. C'est comme ça qu'on a importé notamment la crise des subprimes. Et puis, c'est un marché à l'intérieur duquel, puisqu'on on s'est départi de tous les instruments possibles de politique économique, il ne reste plus que la fiscalité et le coût du travail. La fiscalité, en régime de libre circulation des capitaux, ben on va taxer en priorité les revenus qui ne peuvent pas se délocaliser. C'est-à-dire qu'on va taxer les gens et les PME, en gros, quoi. Et on va taxer moins tout le capital qui peut circuler et qui peut se déplacer d'un clic vers l'un ou l'autre des paradis fiscaux de l'Union européenne. Quant au travail, le coût du travail, qui est devenu la variable d'ajustement principale, c'est pour ça qu'on déréglemente peu à peu, et c'est à cause de cela, pour pouvoir gagner en compétitivité, qu'on a fait la loi El Khomri, les ordonnances Pénicaud, etc. Tout cela tient à la manière, aux structures du marché unique.
Sylvain Kahn.
Ce que dit Denise est effectivement très, très fort. C'est-à-dire que moi, ce que j'entends dans le propos de Denise, c'est un vrai débat politique et idéologique qui, me semble-t-il, ne commence pas avec la construction européenne, ne commence même pas avec l'euro. C'est-à-dire, c'est un débat qui, en France, d'une certaine manière, commence avec la Révolution française et les différents courants de la Révolution française, mais qui, dans d'autres pays, commence au XIXe siècle. Qu'est-ce qu'on fait de l'économie de marché et qu'est-ce qu'on fait du capitalisme dans des nations qui se construisent sur un horizon démocratique ? Bon. Et il me semble, c'est une hypothèse, une proposition pour en discuter avec Denise. Il me semble que ce débat n'a pas été créé par l'Union européenne. Voilà. Et dire que l'Union européenne, c'est-à-dire que dire que l'Union européenne, c'est d'une certaine manière le cheval de Troie du capitalisme et du néolibéralisme, c'est comment dire, c'est à la fois pas faux et en même temps c'est inexact pour deux raisons. C'est-à-dire que d'abord le fameux capitalisme et le néolibéralisme, on n'a pas attendu l'Union européenne et le traité de Rome, que ça soit en France, que ça soit en Allemagne, en tout cas dans tous les pays d'Europe de l'Ouest de l'époque, pour être en plein dedans. Voilà. On n'a pas attendu le traité de Rome et la création de l'Union européenne et de l'euro pour avoir des débats très très forts. Rappelons-nous, dans la France des années 50 et des années 60, on avait un parti communiste français, d'accord, qui était très très clairement anticapitaliste et révolutionnaire et qui était à quasiment 30% des voix. Bon, maintenant, une fois qu'on a dit ça, la concurrence libre et non faussée, c'est quoi le contraire ? Non mais c'est hyper important, Pierre Veil, simplement de s'arrêter là-dessus, parce que depuis effectivement 2005, on dit beaucoup « Ouais, c'est dans le traité, il faut retirer ça, c'est un scandale, c'est très dangereux. » Alors, on peut contester l'interprétation que je vais donner, mais néanmoins, je pense que c'est important que je la livre pour le débat. Quand en 1957, puis encore avec l'acte unique européen en 86, puis ensuite avec le traité de Maastricht en 92, et encore avec le traité de Lisbonne sur l'Union européenne, on a dit « L'Union européenne se donne notamment pour objectif de garantir une concurrence libre et non faussée. » Ça voulait s'opposer à quoi ? C'est quoi le contraire de la concurrence libre et non faussée ? C'est les oligopoles, c'est les monopoles. C'est ça le contraire de la concurrence. C'est-à-dire que l'Union européenne, quoi qu'on pense, on va dire, de la pauvreté, des inégalités, ce n'est pas le Far West, ce n'est pas le renard lâché dans le poulailler, ce n'est pas le cas.
Mais quand je
l'Union européenne, c'est un marché unique, c'est-à-dire que c'est un marché très très encadré, très très institutionnalisé.
Mais si je reprends ce que disait à l'instant,
je prends un exemple très simple, juste si vous
Denise,
le permettez,
qui parlait des méfaits de ce libéralisme. Est-ce que les pays européens ont la possibilité, dans leur législation sociale ou fiscale, de contrer ce libéralisme?
Non.
Alors Coralie,
les pays ne peuvent pas contrer,
il y a des majorités.
Ils ne peuvent pas contrer, c'est lié à aux structures du marché unique européen.
Non,
c'est lié aux structures du marché unique européen et à ce qui est contenu dans les traités, à la manière dont le marché unique fonctionne, à l'existence de l'euro.
Mais on peut changer notre fiscalité, on peut changer le droit du travail.
Exactement. On change le droit du travail, effectivement, et on l'aligne toujours à la baisse. Et les pays se livrent entre eux une concurrence effrénée au moins-disant salarial et au moins-disant fiscal. Le marché unique est en train de devenir une zone géante de dumping fiscal. On a des paradis fiscaux en interne, on a le Luxembourg, on a l'Irlande, on n'a aucun moyen, en régime de libre circulation des capitaux, de mettre un terme à ça.
Réponse de Sylvain Kahn.
Non, c'est-à-dire que, dans le sens où... C'est-à-dire, ce dont on parle en réalité, c'est de la mondialisation. Voilà, c'est-à-dire que la France n'est pas une île au milieu d'un océan qui serait la mondialisation. Voilà. Alors effectivement, il y a des paradis fiscaux en interne, c'est-à-dire que il y a des pays européens qui font de la concurrence fiscale déloyale. C'est vrai, et c'est vrai malheureusement. Moi, en tant que citoyen, je le déplore. C'est vrai dans à peu près toutes les zones du monde. Voilà. Ce qui est vrai aussi, il faut quand même le dire, je veux dire, je pense que ce n'est pas scandaleux de dire que depuis 2013, l'Union européenne, alors on peut trouver que c'est pas assez, on peut trouver que c'est maladroit, on peut trouver que c'est hypocrite, moi je veux bien, mais il se trouve qu'il y a une des législations, alors faut-il dire les plus dures ou faut-il dire les moins souples vis-à-vis de la concurrence fiscale déloyale, c'est l'UE qui la prend. Je veux dire, bon, donc... L'UE, si vous voulez, c'est à la fois... Enfin, moi, je pense, si vous voulez, que l'UE, quand on regarde comment les choses fonctionnent, hein, c'est effectivement une association d'États-nations qui se donne, on va dire, la main pour essayer d'encadrer de la manière, on va dire, le plus possible, peut-être que c'est très insuffisant, les effets pervers de la mondialisation libérale.
On va aller au standard. Marc est en ligne et patiente depuis un bon moment. Bonsoir Marc, vous êtes à Gouzeaucourt, c'est cela ?
C'est ça, tout à fait au centre de la région Hauts-de-France. Bonsoir Pierre Veil et bonsoir à vos invités et à tous.
On vous écoute Marc.
Donc je voulais poser la question suivante. Est-ce que l'Union européenne et surtout la zone euro ne sont pas maintenant un peu trop sous la dépendance de l'Allemagne l'Allemagne, qui est l'État le plus puissant depuis sa réunification. Et j'en prends un exemple, c'est le coup d'État de Martin Selmayr, qui s'est fait nommer par Jean-Claude Juncker à la tête comme secrétaire général de la Commission, et qui s'y maintient en dépit des votes contraires du Parlement.
Alors Marc, allez-y.
Oui, alors je voulais dire qu'on ne s'étonne pas alors qu'il n'y ait pas de réglementation stricte des travailleurs détachés, parce que l'Allemagne en a besoin, qu'on ne taxe pas les GAFA ou qu'on signe des accords de libre-échange à tout va, parce que l'Allemagne veut avant tout continuer à vendre ses grosses berlines, qu'on n'interdise pas le glyphosate ni les autres pesticides, parce que les plus gros fabricants de pesticides s'appellent Bayer et BASF, etc., etc.
Marc, merci de nous avoir appelé, Coralie Delhomme, sur cette puissance de l'Allemagne qui imposerait ses vues économiques à l'Europe et à la France.
Oui, ça c'est très vrai. L'Europe telle qu'on la connaît aujourd'hui est devenue une Europe allemande, à ceci près que actuellement, l'Allemagne est un peu en situation de faiblesse parce que son modèle économique exportateur est en perte de vitesse pour XY raison. Il n'en reste pas moins qu'effectivement, l'Allemagne a bénéficié d'un certain nombre de choix qui ont été faits. Celui de la supranationalité, qui la rend plus à l'aise parce que ça correspond à sa tradition politique de long terme. Et elle domine de manière écrasante l'ensemble des institutions européennes, le Parlement européen. Elle a un tas de présidences, la présidence de la BEI, le secrétariat général du Parlement, le secrétariat général de la Commission. Enfin, elle domine beaucoup les institutions communautaires. Et elle domine aussi économiquement en raison d'autres choix qui ont été faits, donc celui du marché unique, avec l'acte unique en 86, celui de l'euro également, et les élargissements à l'Est au début des années 2000 qui lui permettent de bénéficier d'une base arrière industrielle où effectivement elle réalise des délocalisations de proximité. En résulte un développement de son économie absolument extraordinaire et qui fait de ce pays le leader de fait de l'Union européenne. Ceci dit, il faut quand même bien savoir que si l'Allemagne est en position de domination absolue aujourd'hui, c'est non pas en raison d'une volonté de prédation de sa part, mais en raison d'un certain nombre de choix qui n'ont pas toujours été des choix allemands. Par exemple, le choix de créer l'euro, ça a été en priorité un choix français. Et l'Allemagne n'est forte que de la faiblesse de la France qui n'a de cesse de se coucher, en fait, par rapport au gouvernement allemand.
Sylvain Kahn, on a beaucoup de courriels, je les résume, des auditeurs qui nous disent, ben voilà, à chaque fois qu'un président français est élu, que ce soit Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron, première visite à l'étranger, ils vont en Allemagne, ils ont plein de résolutions, ils ont fait des promesses électorales, et puis là-bas, Angela Merkel leur explique qu'il faut respecter les règles européennes, et donc, je lis les courriels, nos présidents se couchent devant l'Allemagne et obéissent aux contraintes budgétaire si importante pour la chancelière allemande. Est-ce que ce constat, c'est la vérité ?
Écoutez, moi je sais pas trop ce que ça veut dire la France qui se couche ou la France se couche. J'espère que c'est pas une forme de sexisme vis-à-vis de Madame Merkel. La France se couche, il fait beau dans notre pays, le week-end de Pâques, il y a des souffrances, des difficultés, mais il y a aussi de la vigueur, du débat, les gilets jaunes.
Est-ce que l'Allemagne impose ses vues économiques à l'Europe ?
Il y a de la production industrielle. La France est l'un des pays les plus puissants au monde s'agissant du secteur des services, d'accord ? Même la désindustrialisation en France, si elle est réelle, est relative. Donc moi, je ne sais pas ce que c'est que la France qui se couche, premièrement. Deuxièmement, je ne sais pas ce que c'est que la domination absolue de l'Allemagne ou de n'importe quel autre pays en Europe.
On nous rappelle par exemple l'Europe que François Hollande avait dit « je vais renégocier, il faut qu'on puisse dépasser le fameux 3% » et finalement il a renoncé.
Je comprends, mais moi il me semble que si justement avec Jacques Lévy nous parlons du pays des Européens, c'est pour dire que, quand on parle de la France, on ne réduit pas la France à ses présidents de la République. Ni à ses premiers ministres. La France, c'est la société française. C'est les hommes et les femmes qui font la France. C'est les travailleurs, c'est les retraités, c'est les enfants, c'est les écoliers. Bon, l'Europe, c'est pareil. L'Europe, c'est pas uniquement François Hollande ou Emmanuel Macron qui font un jeu diplomatique. Évidemment, c'est important. Mais l'Europe, ce n'est pas que cela. L'Europe, ce sont des pays qui ont décidé, alors on peut penser que c'est une décision qui serait devenue caduque, on peut le penser, mais ce sont des pays, donc des sociétés, qui ont pensé qu'à un moment donné, pour réussir à relever un certain nombre de défis, il fallait peut-être les relever en commun et à plusieurs. Et qu'à partir de là, on décidait à l'avance, c'est le sens des différents traités qui ont été signés depuis 1957, que dans un certain nombre de domaines, encore une fois, on l'a rappelé, la production économique, l'environnement juridique de la consommation, la politique agricole, la politique de santé du consommateur, aujourd'hui la politique monétaire, eh bien, on n'allait plus prendre de décisions seules, mais qu'on allait prendre des décisions ensemble. Aujourd'hui, dans ce qu'on appelle le Conseil européen, c'est la chambre des États, d'accord? C'est l'équivalent d'un espèce de Sénat, si vous voulez, à l'échelle de l'Union européenne. L'Allemagne, c'est 13% des voix. Alors, moi, je veux bien qu'on imagine que l'Allemagne peut tout toute seule, mais c'est inexact. Je veux dire, l'Allemagne, si vous voulez, si vous la comparez aux Pays-Bas, si vous la comparez à la Finlande, si vous la comparez à la Suède, c'est une société et un pays qui est, je dirais, relativement modéré s'agissant de la mise en œuvre de l'ordolibéralisme qui a été évoqué tout à l'heure par Marc.
Sur tous ces points, Coralie Delhomme, une réaction, parce qu'on a plein de courriels. Oui, alors... je vous lis, Roland, les règles d'équilibre budgétaire de l'Union européenne sont un carcan qui porte atteinte à notre souveraineté. Nous vivons dans un cadre trop rigide. Les pays n'ont plus de marge de manœuvre.
Mais c'est vrai. Alors, pour illustrer la France se couche, on peut donner un certain nombre d'exemples. Il y a eu effectivement François Hollande qui voulait renoncer au traité.
Il voulait s'affranchir de l'obligation des fameux 3%, voilà, négocier, et finalement...
Ouais, évidemment,
C'est pas exactement ça, ailleurs, il voulait pas s'affranchir, il voulait qu'on réécrive le traité pour sortir de l'obligation des 3% les investissements dits structurels, et en particulier de la recherche et de l'éducation.
Et ça n'a pas été fait.
Ça n'a pas été fait. Décisions se prennent à 28.
Oui,
okay. Bon, ensuite,
il y a des tas de pays qui veulent pas ça. Il y a des tas de pays qui considèrent que la France a tout droit à raison. Je ne me prononce pas. Qui considèrent que la France, objectivement, il y a que deux pays aujourd'hui dans toute l'UE qui ne respectent pas les critères de Maastricht. Il y a que deux pays, dont la France. Tous les autres disent.
C'est pas très grave
fait.
Puisqu'ils sont absurdes, ces critères. C'est absurde.
Ça, c'est vous qui le dites, Madame Delhomme.
Bah si, c'est absurde ce critère des 3%. Enfin, je veux dire, quand
ça a été ratifié par les parlements,
des auditeurs.
Un autre exemple de la France qui s'efface, c'est par exemple la question, c'était pourtant un aménagement à la marge, hein, c'était pas une révolution du fonctionnement des règles de l'Union européenne, mais la taxe GAFAM. La France a proposé ça, l'a portée à bout de bras. Alors effectivement, il y a eu l'opposition, on s'en doutait bien, des paradis. Vous pouvez me laisser parler, s'il vous plaît.
Oui,
des paradis fiscaux internes à l'Union européenne se sont opposés, mais l'Allemagne n'a pas soutenu cette initiative. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne craignait que, en retour, les États-Unis taxent ces voitures allemandes. Or, l'Allemagne est un pays qui a absolument besoin de pouvoir exporter des voitures et des machines-outils, parce qu'en fait, tout son modèle est organisé autour de l'exportation de ce type de fabrication. Donc, l'Allemagne n'a pas soutenu la France concernant la taxe GAFAM. Par ailleurs, lorsqu'Emmanuel Macron, et c'était l'un de ses grands projets de campagne, et il a assuré qu'il pouvait l'obtenir, est allé à Berlin pour négocier la création d'un budget de la zone euro, c'est-à-dire un budget fédéral qui aille avec la monnaie fédérale et sans laquelle elle est probablement condamnée à terme, il s'est fait éconduire parce que tout simplement l'Allemagne ne veut pas et n'a jamais voulu ce qu'elle appelle une union de transfert, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas réaliser des transferts budgétaires massifs en direction de pays qui sont moins riches qu'elle.
Michel nous écrit ceci, est-ce que vous confirmez ce qu'a dit tout récemment à la télévision Arnaud Montebourg ? Il a cité Angela Merkel qui aurait dit « finalement, la démocratie doit se conformer au marché ». Vous avez entendu cette phrase ?
Non, j'ai pas entendu cette phrase.
Sylvain Kahn ?
J'ai pas entendu cette phrase non plus.
On va aller au standard et on va retrouver Guy. Bonsoir Guy, allez-y.
Oui, bonsoir. Arrivant au dernier, je serai très bref parce que tout a été dit sur le plan ultralibéralisme. Je suis tout à fait d'accord quand c'est pas qu'on se couche, j'aime pas le terme, mais je pense qu'on est faible devant l'Allemagne. Moi, j'ai 77. J'ai donc connu l'évolution de l'Europe depuis Monnet, le Maastricht, etc. Mais on se déshumanise nos relations. Nous avions des couples allemands, France, qui étaient absolument soudés, comme Adenauer, De Gaulle, Mitterrand, Kohl, etc., qui, en fait, faisaient passer, on avait l'impression, les facteurs économiques, fiscaux, au deuxième plan. Mais dès qu'on a abordé la nécessité effective d'avoir, d'une part, une politique économique européenne, fiscale, etc., des distorsions ont commencé, et l'Allemagne, elle ne joue pas le jeu. Je suis d'accord avec Mme Coralie qui dit qu'effectivement, elle ne joue pas le jeu du tout. Elle fait un protectionnisme pour ces automobiles devant effectivement les traités qu'elle aurait dû aider à signer, GAFA, CETA, etc., elle ne veut pas parce qu'elle a peur d'une mesure de rétorsion. Ensuite de ça, elle a une politique écologique un peu bizarre, puisque bon, elle a fermé ses centrales, mais elle fait du charbon qui pollue encore plus. Bref, ouais. Donc je pense qu'elle est, c'est pas, nous on nous dit toujours la France est le mauvais élève. Non, c'est pas le mauvais élève. Il a ce côté, j'espère, humain et humaniste, c'est-à-dire éviter ce qui s'est passé en Grèce et tout ce qui se passe, qui peut se passer en France demain, et on a raison de se méfier, effectivement, de trouver un accord, si on peut le trouver, avec le, la prochaine, disons, ministre, premier ministre de l'Allemagne, puisque Mme Merkel s'en va. Est-ce que c'est un espoir, ou est-ce que c'est presque sûr que ça continuera dans le même registre, c'est-à-dire une toute puissance germanique, voiture, chimie, etc. Voilà ma question.
Guy, vous avez dit que vous avez 77 ans, donc oui. L'histoire de l'Europe, vous la connaissez bien.
Oui. Oui, moins bien que vos intervenants, mais je la connais.
Vous la connaissez bien. Alors, je voudrais savoir, vous, alors, ce soir, on pose la question, à quoi sert l'Europe? Quels sont les points positifs que vous retenez de cette Europe, alors, dont vous avez vécu toutes les tensions?
Oui, tout à fait. Bien quand même, là, je viens de vous faire un protère un peu au vitriol, mais les points positifs, c'est le côté humaniste, effectivement, il n'y a pas de guerre. On circule librement, on va en Allemagne, les Allemands viennent, etc. Je regrette le départ de l'Angleterre, bien sûr, mais ça, c'est pas de notre faute, ni de notre fait. Ça, c'est un point positif énorme. Voilà.
Merci, Guy. Guy évoquait ces problèmes de relations difficiles entre la France et l'Allemagne et d'une superpuissance germanique, je reprends son terme, Coralie Delhomme.
Alors, moi, je dirais pas que l'Allemagne ne joue pas le jeu. En réalité, elle joue le jeu de ses intérêts nationaux, ce qui est bien normal. Ce qui est problématique, c'est que la France, elle, ne joue pas le jeu de ses intérêts nationaux. L'Allemagne est structurellement dans une prise, comme nous, dans des règles qui lui profitent à elle. C'est comme ça. Ce sont les règles qui sont mauvaises, c'est pas l'Allemagne qui est méchante. Mais c'est vrai que la France ne fait jamais prévaloir ses propres intérêts. Et quand on regarde, par exemple, le contenu du traité bilatéral franco-allemand qui a été signé au mois de janvier à Aix-la-Chapelle, on a l'impression que les concessions que fait la France dans le domaine de la diplomatie, dans le domaine de la défense, sont très importantes et que les concessions que fait l'Allemagne dans le domaine où elle est leader, c'est-à-dire dans le domaine de l'économie, sont inexistantes. Donc d'abord, on peut se demander pourquoi avoir absolument voulu signer un traité bilatéral dans le cadre de l'Union européenne qui contient 28 pays membres, quid des autres? Est-ce que l'Italie est un pays européen de second rang? Pourquoi? Et puis d'autre part, il y a la question de ce que contient ce traité.
Sylvain Kahn.
La France, de tous les pays membres de l'Union européenne, est le premier bénéficiaire des aides versées par l'Union européenne. Oui. Bon, c'est difficile de dire que la France est en permanence défavorisée ou qu'elle n'obtient jamais ce qu'elle veut. La politique agricole commune, depuis son invention en 1957, a été, on peut le dire, même si c'est un peu schématique, fait pour la France. Et si elle continue, c'est uniquement ou presque pour la France.
On en parlera demain soir, ce sera le thème de notre émission spéciale de 18h à 20h.
Et c'est un exemple.
Ouais, on va retrouver Karl, qui est en ligne depuis un bon moment et qui attend. Bonsoir Karl.
Oui, bonsoir.
Bienvenue sur l'antenne. On écoute votre question ou votre remarque.
Merci. Alors, en fait, l'idée de fusionner 27 ou 28 États-nations, hein, vos intérêts bien souvent contradictoires dans un ensemble supranational qui paraît pour le moins rigide, voire irréformable, n'est-il pas dépassé ou inadapté au monde d'aujourd'hui qui est globalisé? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt reprendre nos indépendances respectives, hein, afin de bien d'être ainsi plus réactifs, plus agiles dans la mondialisation? On pourrait, les États-nations pourraient bien sûr nouer différentes alliances, coopérations, hein, non plus basées sur une origine continentale commune, on va dire, mais sur des communautés d'intérêt en fonction du sujet ou du domaine. Voilà.
Sylvain Kahn.
Ben, il me semble, Karl, si vous permettez cette réaction chaleureuse, que vous venez de donner la définition de la construction européenne.
Mmh, c'est-à-dire ?
Ben, c'est-à-dire des pays qui décident d'avoir, qui se rendent compte qu'ils ont des intérêts communs, décident de faire ensemble un certain nombre de politiques publiques communes, dans l'espoir de mieux atteindre ensemble les objectifs qu'ils ont chacun fixés pour eux-mêmes, même si ça oblige effectivement à faire des compromis. Voilà.
Coralie Delhomme.
Oui, alors je pense qu'on pourrait effectivement faire des choses ensemble, mais l'erreur qui a été faite, c'est d'avoir voulu créer un ensemble supranational qui a des, au sein duquel il y a des éléments de fédéralisme. Par exemple, typiquement, l'euro est une monnaie fédérale, avec une banque centrale européenne fédérale qui n'est adossée à aucun État fédéral. Autant vous dire qu'en termes de démocratie, la banque centrale européenne s'est considérablement politisée, elle prend aujourd'hui des décisions qui sont très lourdes et qui ne sont absolument pas contrôlé par le politique, puisqu'il n'y a pas de gouvernement supranational, il n'y a pas d'État supranational. Bon, ça, on aurait pu effectivement s'en passer. Et même, il va falloir un jour ou l'autre qu'on s'en passe.
Il faut qu'on s'en passe, c'est-à-dire.
Mais à un moment, si vous voulez, à partir du moment où Macron est allé négocier ce budget de la zone euro, qui est la condition sine qua non pour que l'euro survive, il sera un jour ou l'autre, il va exploser ou il sera démantelé. Il y a pas, c'est pas de la magie. Hein. Une monnaie fédérale sans budget fédéral, ça ne tient pas. Voilà. Bon, effectivement, toutes ces avancées entre guillemets fédérales, on n'était pas du tout obligé de faire ça. Et si jamais on reprenait un certain nombre de nos billes en défédéralisant l'Europe, ça ne voudrait pas dire que les pays ne pourraient plus coopérer entre eux. Et par exemple, il y a un certain nombre de choses qui ont été réussies, mais par un plus petit nombre de pays et sur des domaines plus circonscrits. Typiquement, l'exemple qu'on cite souvent, c'est Airbus, qui a été au départ une coopération entre deux pays auxquels d'autres pays se sont agrégés, et ça n'a pas consisté à déléguer de la souveraineté, ça consistait à mettre en commun des compétences.
Sylvain Kahn,
C'est intéressant ce qui vient d'être dit, parce que si on critique la BCE au motif que l'Union européenne n'est pas assez fédérale, ça veut dire qu'en fait, on risque d'aller vers quelque chose qui est contradictoire avec le fait de redonner plus de pouvoir aux États-nations. Bon, ça c'est la première chose, ça veut dire que, alors effectivement, soit... Là, ce que j'entends, c'est qu'on serait au milieu du guet. Alors, soit on supprime la BCE et l'euro, soit, pour que ça soit plus démocratique, à ce moment-là, il faut carrément faire encore un saut fédéral supplémentaire. Sur la BCE, c'est une banque centrale indépendante, comme l'était déjà avant la création de la BCE, les banques centrales nationales. D'accord ? Je veux dire, il n'existe dans aucune démocratie du monde d'aujourd'hui, de banques centrales qui soient subordonnées au pouvoir politique. C'est même la raison d'être de l'efficacité des banques centrales. Troisièmement, s'agissant de la Banque Centrale Européenne, depuis que M. Draghi la dirige, il a eu un jour une phrase disant « whatever it takes », qui veut dire « quoi qu'il faille, on le fera ». Et ça veut dire qu'en fait, la BCE, depuis que M. Draghi est aux commandes, et je l'ai dit tout à l'heure, il est aux commandes avec tout le board des gouverneurs qui sont les représentants des banques centrales nationales, ils ont décidé de faire exactement le contraire de ce qui est prévu que doit faire la Banque centrale dans les traités. Ça veut dire qu'il a une politique de création monétaire que probablement pas une banque centrale nationale n'aurait osé faire parce qu'elle n'aurait pas eu les reins assez solides. Donc, paradoxalement, le fait qu'il y ait une banque centrale européenne, quand bien même, effectivement, ça ne veut pas dire que tout est rose, encore une fois, mais sur le point dont on parle là très précisément, c'est bien parce qu'on avait une banque centrale européenne, donc à l'échelle de 400 millions d'habitants et de 19 pays, qu'on a pu avoir une banque centrale qui a permis de faire de la création monétaire, qui a permis de faire ce que tous les gens qui critiquaient la BCE et le traité de Maastricht, d'accord, voulaient faire en se disant « revenons au franc ». Là, ça a pu être fait, et en bien mieux et en bien plus grand, parce qu'il y avait la BCE. Sans la BCE et sans l'euro, je crois que la crise de 2008 aurait été bien pire.
Coralie Delhomme.
Oui, c'est vrai que la BCE a une politique monétaire plutôt accommodante, mais le problème de la BCE, c'est qu'elle est obligée d'essayer de faire un poids moyen, comme s'il existait une politique monétaire qui convienne à tous les États membres de la zone euro. Or, c'est faux. Pour un certain nombre de pays, cette politique monétaire est trop hétérodoxe. Pour d'autres, elle est trop orthodoxe. Donc, il n'y a pas de, si vous voulez, la politique monétaire telle qu'elle est actuellement menée, qui est une politique plutôt hétérodoxe, génère beaucoup d'inquiétudes en Allemagne. Par exemple, où d'abord l'existence de taux très bas n'est pas très favorable à l'épargne allemande. Or, il y a beaucoup d'épargne en Allemagne. Le fait que cette monnaie soit pour un certain nombre de pays du Sud surévaluée les a complètement désindustrialisés. Il n'y a pas de point moyen qui puisse être trouvé, à moins qu'il y ait adossé à cette monnaie fédérale un budget fédéral. Or, Emmanuel Macron a essayé de l'obtenir et il a échoué.
À propos du thème de l'émission de ce soir, à quoi sert l'Europe, je vous renvoie au site de France Inter, franceinter.fr, avec des chiffres complets, des explications, notamment des analyses sur la façon dont est perçu le Parlement européen. Dossier complet, franceinter.fr. Sylvain Kahn, avant d'aller au standard.
Oui, juste sur ce qui vient d'être dit, c'est donc sur le fait qu'une partie de l'opinion publique allemande s'inquiète de la politique actuelle de la BCE, c'est donc bien un signe que l'Allemagne n'est pas une superpuissance absolue qui dominerait l'Europe et donnerait le la de tout ce qui se fait.
Ce courriel de Carole qui nous dit « Savez-vous qu'il existe un fonds européen d'aide aux plus démunis et qu'il finance les Restos du Cœur ? L'Europe peut être bien utile. » Sylvain Kahn, vous parliez de la politique agricole commune qui est, semble-t-il, très importante pour aider France. Nos agriculteurs et la France. Ben, on voit que l'Union européenne permet, par exemple, là, d'aider les Restos du Cœur. L'UE, d'après ce courriel, finance un repas sur trois à hauteur de 25 millions d'euros. Coralie Delhomme ?
On est dans des structures qui génèrent structurellement du chômage. Encore heureux qu'on fait un peu de charité, c'est pour pouvoir se passer de la justice, non ? Enfin, je sais pas, moi ça me laisse absolument indifférente.
Russell nous appelle ce soir et il est au standard maintenant, en direct sur l'antenne. Bonsoir Russell.
Oui, bonsoir à tous. Merci pour votre émission, merci de parler d'Europe, on n'en parle jamais assez. Et puis surtout, merci à Monsieur Kahn, dont j'ai beaucoup apprécié les propos ce soir, tant sur le fond que sur la forme. J'ai été impressionné par sa pédagogie extrêmement salvatrice en ces temps souvent brumeux sur le sujet européen. Voilà, plus qu'une question, je voulais simplement partager une réaction, je dirais même plutôt un agacement qui est né du propos de Madame Delhomme et d'un certain nombre d'auditeurs et de personnes que je peux rencontrer quand je parle sur l'Europe, qui ont tendance à parler de cette Europe comme d'un grand ça, presque comme d'une organisation un peu métaphysique qui aurait été créée ex nihilo et qui agirait comme ça, in abstracto, en imposant des choses aux États. Voilà, simplement rappeler encore une fois que les grandes orientations de l'Union européenne, et ça a été rappelé ce soir, sont le fruit de décisions des chefs d'État et de gouvernement de nos États membres. Et j'encourage donc tout simplement les gens qui ne sont pas d'accord avec ces orientations-là à voter pour des majorités différentes au niveau national. Et à un moment, la bascule s'opérera au niveau européen. Idem à l'occasion des élections européennes, voter pour des gens qui défendent une autre conception de l'Europe et l'Europe changera. Mais encore une fois, l'Europe, c'est pas quelque chose comme ça sorti de nulle part, c'est le fruit de décisions collectives. Voilà, et c'est toujours quelque chose qui me gêne un peu quand on a tendance à la personnifier comme ça.
Russell, voilà. Merci beaucoup d'avoir témoigné. Coralie Delhomme, ce que vient de dire Russell, bon, il dit voilà, les changements qu'apporte l'Europe, à quoi sert l'Europe, c'est le résultat de votes, de discussions entre les chefs d'État et de gouvernement de l'Europe, et ce sont ces chefs d'État et de gouvernement des personnes qui ont été élues. Donc l'Europe n'est pas une abstraction.
Ça n'est pas du tout une abstraction, mais je n'ai pas du tout dit que c'était une abstraction ou un être métaphysique. C'est un ensemble institutionnel et doublé d'un grand marché. Voilà ce que c'est. Et effectivement, ça résulte de traités qui ont été signés, mais de traités avec lesquels les politiques nationaux ont organisé leur impuissance collective. À partir du moment où on a transféré un certain nombre de prérogatives souveraines à des instances supranationales, c'est trop tard. Après, on peut pas, si on vote pour des majorités différentes, mais oui, mais les gens le font. Ils votent à droite, ils votent à gauche, ils votent à droite, ils votent à gauche, et on voit bien que depuis le milieu des années 80, il n'y a eu aucune alternance en termes de politique économique. Les politiques économiques menées, parce qu'elles sont surdéterminées par le cadre supranational, ne peuvent pas changer.
Sylvain Kahn.
On parle beaucoup depuis le début de cette émission du supranational. Alors, ça veut dire quoi, le supranational? Et c'est vrai qu'on peut être pour, on peut être contre. Supranational, ça veut dire effectivement qu'il y a un moment donné où des États, alors les États par définition, effectivement, ils cherchent à défendre leur souveraineté. Bon. Il se trouve que depuis 1957, d'une manière qui est, qu'on trouve ça bien ou pas, et on peut en changer, d'une manière qui est inédite dans l'histoire de l'humanité et dans l'espace mondial, il y a des États. Alors, je précise quand même, on s'en souvient tous, démocratique, ça veut dire que c'est des décisions qui ont été prises par les parlements nationaux, d'accord, et parfois par référendum. Donc il y a des États qui disent, sur certains sujets, d'accord, je ne vais plus décider tout seul de la politique publique que je vais mettre en œuvre sur mon territoire, je vais le faire avec mes voisins. Je vais coproduire de la politique publique. Et du coup, en contrepartie, je vais être coproducteur de la politique publique qui se prend sur le territoire des voisins en question. D'accord ? C'est une espèce de grosse AG de copro avec un supplément d'âme en plus, on pourrait le dire comme ça. Donc la supranationalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, on dit, comme on s'est mis d'accord sur le fait qu'on allait maintenant fonctionner comme ça, encore une fois, dans certains domaines qui sont la concurrence, le commerce extérieur, la santé du consommateur, l'agriculture, la mobilité étudiante, la possibilité de s'installer dans un autre pays pour travailler, etc., etc. On dit, comme nous, nous sommes des États et qu'on se méfie de nous-mêmes parce qu'on sait très bien qu'on a toujours le réflexe de vouloir rattraper notre souveraineté pour faire les choses tout seul dans notre coin, on a inventé un machin qui s'appelle la Commission européenne, d'accord, qu'on va charger un peu comme Jiminy Cricket dans Pinocchio, d'être notre bonne conscience qui nous rappelle les engagements qu'on a pris de ne pas mettre de veto à des décisions qu'on prend en commun. La supranationalité, c'est ça. C'est l'énorme différence entre l'Union européenne et, par exemple, l'ONU. Il n'y a pas de droit de veto sur 90% des décisions qu'on y prend. Alors effectivement, c'est exigeant. Effectivement, c'est un peu ennuyeux. Effectivement, ça veut dire que de temps en temps, on aimerait bien décider tout seul, mais on a pris à l'avance l'engagement que, justement, sur certains sujets, ça nous paraissait plus malin de ne pas se décider seul. Alors, bien. Si vraiment il y a des gens qui veulent décider tout seul, bah, il y a une solution, c'est de sortir, quoi. Voilà. Et sinon, de la même manière qu'on dit oui, j'aime la France, mais je ne suis pas d'accord avec le gouvernement ou je ne suis pas d'accord avec la politique, donc je vais voter différemment pour changer de politique et changer de gouvernement, on ne dit pas je vais mettre la France à la poubelle. Bah, l'Europe, c'est pareil, c'est bon, un pays. On va aller... Donc, si on veut changer de politique, on vote et voilà, dans le cadre de l'Europe. Voilà, ça peut se faire. C'est pas
dernier appel au standard, c'est Bernard. Bonsoir Bernard. Vous écoutez l'émission. Alors, on n'a plus tellement de temps. Il nous reste 2 minutes. Oui. Soyez pas trop long. Vous voulez poser une question, faire une remarque? Allez-y.
Simplement faire une remarque pour signaler que il n'est pas très judicieux d'opposer la nation à l'Europe. On peut être fier d'être espagnol, italien, allemand, français ou portugais. Et en même temps, fier d'être européen. Dans bien des domaines, le domaine l'Europe nous a apporté la paix et le développement économique. Donc faisons en sorte que les jeunes se rencontrent, ayons des projets communs dans le domaine industriel, dans le domaine de l'art, de l'architecture, de la musique. Faisons en sorte que les jeunes se rencontrent. Et maintenant cette fierté nationale et cette fierté d'être européen. Voilà mon message.
Donc, Bernard, Mais Bernard, ça veut donc dire que pour vous, c'est à cela que sert l'Europe aujourd'hui. L'Europe défend la paix, défend des échanges entre les Européens, échanges culturels, échanges industriels.
Tout à fait, et c'est déjà très bien qu'il n'y ait pas eu de guerre et que nous soyons dans la bonne entente. On peut être fier de rouler dans une Alfa Romeo, une BMW, ou une Renault, ou une Peugeot, mais peu importe. Ce qui compte, c'est que nous l'avons fait ensemble, puisque les moteurs sont fabriqués dans un pays, la carrosserie ailleurs, le design dans un autre pays.
Coralie Delhomme,
soyons complémentaires.
Oui, Bernard, on n'a plus beaucoup de temps et je voudrais que Coralie Delhomme intervienne sur ce témoignage.
Quand monsieur dit, on peut à la fois être fier d'être français et fier d'être européen, il y a quand même une différence, c'est que en France, on a un peuple français, c'est-à-dire un corps politique. L'Europe, c'est une addition de peuples dans une ère civilisationnelle, si vous voulez. Il y a une communauté culturelle, mais il n'y a pas de corps politique européen. Donc à partir de ce moment-là, la démocratie ne peut s'exercer qu'à l'échelon national, quitte à coopérer entre États souverains à l'occasion de traités de coopération internationaux.
C'était le téléphone sonne. Merci à nos invités Coralie Delhomme et Sylvain Kahn. Demain soir, à nouveau, émission spéciale avant l'élection européenne du 26 mai pour vous informer de façon complète. Et demain soir, on ouvrira le dossier de la politique agricole au sein de l'Union européenne.